De Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Soupçon de triche dans les concours à distance des écoles de commerce post-bac. Les organisateurs de ces épreuves révèlent la vaste panoplie d'outils très sophistiqués pour traquer les fraudeurs. Épisodie de grippe aviaire sans précédent en France. Plus de 15 millions de volailles abattues depuis novembre dernier. Opération survie chez les Républicains à la veille des législatives. Parti fracturé, menacé d'une hémorragie d'élus, tenté de rejoindre les rangs de La République En Marche. Nous verrons dans ce journal ce qu'en pensent les militants. Une mystérieuse vague de décès chez les oligarques russes. Plusieurs hommes d'affaires et leurs familles ont été retrouvés morts. Et puis les derniers honneurs à un monstre sacré, hommage national à Michel Bouquet cet après-midi dans la cour d'honneur des Invalides.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui le spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire, Pierre Servent.
France Inter.
La triche, Laurence, la triche au concours des écoles de commerce, fantasme ou réalité?
Cette année, les concours d'accès post-bac aux grandes écoles de commerce, Sésame et Accès, ont été marqués par des cas de triche. Élèves et parents se sont alarmés de la perte de valeur de ces concours. Alors les organisateurs ont reconnu qu'il y avait eu des cas de fraude, ils ont dévoilé du coup leurs outils très sophistiqués de surveillance à distance pour traquer les resquilleurs, les bannir des concours à l'avenir. Sonia Princé a suivi une démonstration, les candidats sont filmés pendant toute la durée des épreuves.
Là, je vais vous partager mon écran, vous avez une partie là.
Thomas Lagatu, le directeur du concours Sésame, nous montre le cas d'un candidat qui a utilisé son téléphone pendant une épreuve.
Vous voyez là? Là, clairement, il a un comportement où il regarde d'ailleurs constamment, et là, sur cette image-là, vous voyez pas le téléphone là, apparu, disparu, vous voyez, c'est très rapide, il faut être rapide.
Rapide, mais repéré quand même par un logiciel qui a analysé 52 millions d'images. Chaque mouvement, chaque bruit anormal est décelé. La procédure de contrôle est stricte, comme le précise Thomas Lagatu.
Les candidats doivent filmer l'intégralité de leur environnement de travail, leur bureau dessus, dessous. Ils doivent également filmer leurs oreilles. Et ensuite, ils sont enregistrés son et images pendant l'intégralité de leurs épreuves. On analyse tout ça dans le détail pour repérer des cas d'utilisation de téléphone, des cas de gens qui se font aider par d'autres gens, parce que on les entend parler ou chuchoter, même des fois très bas, avec d'autres gens qui leur donnent des réponses, des cas d'échange de documents, des choses comme ça.
Environ 10% d'images suspectes ont été détectées par le logiciel, et 200 personnes ont ensuite passé une semaine à les visionner. Finalement, sur 11 600 candidats, 40 cas de fraude ont été constatés, soit 0,34%. Ces 40 candidats vont recevoir un courrier les informant qu'ils ne pourront plus passer un concours pour une école de commerce. Ils peuvent aussi écoper de sanctions plus lourdes, jusqu'à 5 ans d'interdiction de passer un examen national.
Sonia Princé, la volaille française traverse la pire crise sanitaire de son histoire. L'épidémie de grippe aviaire est repartie comme jamais. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture, 1330 élevages ont été touchés depuis novembre dernier, plus de 15 millions de volailles abattues. Et ce n'est pas le sud-ouest qui d'ordinaire est le plus touché, mais ce sont les Pays de la Loire et en particulier le département de la Vendée où le virus mutant est devenu très virulent jusque dans les élevages de poules pondeuses. Gilles Salva, délégué au pôle recherche de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.
C'est une épisode aussi sans précédent en France. Alors, on ne s'attendait pas forcément à ce que la migration remontante soit contaminée et contamine des élevages parce qu'on l'avait pas encore vu dans les crises précédentes depuis qu'on a des crises d'influenza aviaire. Ensuite, on a eu une conjonction de circonstances défavorables. D'une part, l'introduction du virus dans une zone de très forte densité de volailles en Vendée, à un moment où on était en pleine période de production, parce qu'on était en train de produire les canetons qui allaient repeupler ensuite les zones du sud-ouest, etc. Donc on a eu cette introduction dans cette zone de forte densité et dans le même temps, des fortes tempêtes qui ont ramené des oiseaux sauvages qui étaient sur la côte vers l'intérieur des terres. Et là, ils ont pu contaminer l'environnement des élevages, voire contaminer des élevages. Et à partir de là, on a allumé une mèche dans un secteur avec une très forte densité qui a fait que le nombre d'élevages est rapidement devenu très très important.
Gilles Salva, le directeur général délégué au pôle recherche de l'ANSES, au téléphone de Sophie Constancer. À moins de 7 semaines des législatives, les partis tentent de nouer des alliances pour envoyer un maximum de députés à l'Assemblée nationale. À gauche, un rendez-vous aujourd'hui que plus personne n'attendait, la France Insoumise et le Parti Socialiste vont se retrouver pour discuter de la possibilité d'un rapprochement pour ce scrutin. À droite, hier, les responsables LR ont réaffirmé leur indépendance face à Emmanuel Macron, mais le parti semble plus divisé que jamais car ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter un rapprochement avec la majorité présidentielle. Et sur le terrain, qu'en pensent les militants? Illustration à Toulouse avec ce reportage d'Hugo Charpentier.
Malgré la période difficile traversée par leur parti, ces militants ne sortent pas du cadre. cadre, discipliné, LR doit rester LR.
On n'est pas des reconquêtes, on n'est pas d'extrême droite, mais on n'est pas non plus de La République En Marche, on n'est pas non plus des centristes.
À Toulouse, ville dirigée par Jean-Luc Moudenc, maire LR, mais considéré comme Macron compatible, ses militants ne veulent pas entendre parler de rapprochement.
Ah, certainement pas. Moi, les Républicains, c'est mon ADN, et en aucun cas j'ai envie d'aller ailleurs, parce que je ne m'y retrouve pas, et je pense que ce n'est pas très éthique de quitter le bateau à la première défaite. Voilà, il faut se battre jusqu'au bout.
Quant à ceux qui voudraient ou qui sont déjà partis...
Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils font ce qu'ils veulent. Laissons-les partir, ils sont mieux ailleurs que chez nous.
C'est une sélection qui s'est faite naturellement, et tant mieux pour nous, au contraire. C'est une réelle chance de pouvoir repartir sur de bons rails.
Avec comme horizon les législatives, des élections dans les territoires qui, ils en sont persuadés, leur seront plus favorables.
On est un parti avec un ancrage territorial dans chaque région, et je pense qu'on a suffisamment d'esprits brillants, suffisamment de gens qui ont aussi envie de reconstruire le parti et de mener la bataille ensemble, et je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer.
Chez les LR, la division entre les élus ne semble pas atteindre la base militante.
Hugo Charpentier, faut-il y voir la main du Kremlin? La question est posée après cette vague de décès dans les rangs des oligarques russes. Plusieurs d'entre eux ont été retrouvés morts avec leur famille. Alors, suicide ou meurtre déguisé, nombre d'entre eux sont sous sanctions internationales. Leurs avoirs ont été gelés, leur yacht et villa mis sous séquestre. Mais certains de ces multimillionnaires sont aussi pointés du doigt par le président russe, car Vladimir Poutine accuse certains d'être des traîtres, notamment ceux qui vivent hors de Russie. Jean-Sébastien Soldini, ils sont 6 à avoir disparu dans d'étranges circonstances.
Depuis la fin février, un même scénario se répète. Un oligarque retrouvé pendu par son jardinier ou par un ami. Près de lui, une lettre d'explication et à quelques mètres, les corps d'une épouse et d'enfants lacérés de coups de couteau. Une telle succession de suicides aussi rapprochés, dans des conditions quasi similaires, c'est forcément suspect, précise un connaisseur de la galaxie Poutine. Toutes les victimes, ou presque, sont des hommes haut placés de l'entreprise Gazprom, géant russe de l'énergie, très lié au Kremlin. Une société qui n'hésite pas à se mêler des enquêtes. Le 25 février, au domicile d'Alexander Tulyakov, lui aussi découvert pendu dans son garage, les légistes font leur constatation lorsque des agents de sécurité de Gazprom viennent boucler la scène de crime. Médecins et policiers sont alors poliment mis à l'écart. Troublant, mais une autre piste peut expliquer le geste de ces hommes. Certains redoutaient de se trouver en situation de faillite, ruinés par des sanctions internationales, privés de devises étrangères qui leur permettaient d'assurer leur train de vie.
Jean-Sébastien Soldini. La tension qui monte encore d'un cran entre la Russie et l'Occident, la Pologne et la Bulgarie, deux pays membres de l'UE et de l'OTAN, ne seront plus livrés en gaz à partir d'aujourd'hui, officiellement parce qu'ils refusent de payer les factures de Gazprom en roubles, comme l'a exigé Moscou. Conséquence, le pays assure qu'il n'aura pas besoin de puiser dans ses réserves, puis Varsovie devrait être approvisionnée dans les mois prochains par la Norvège et par les États-Unis en gaz liquéfié. Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son troisième mois, le nombre de réfugiés a atteint plus de 5 millions, selon l'ONU. À la mi-avril, la France recensait près de 25 900 réfugiés, selon le ministère de l'Intérieur. Un accueil qui s'est en grande partie fait dans l'urgence chez les particuliers. À Florac, dans le Lot, Luc Berthaud et sa femme ukrainienne Ludmila ont hébergé jusqu'à 12 personnes dans leur maison de 100 mètres carrés. Mais derrière l'élan du cœur, il y a aussi beaucoup de difficultés, très diverses d'ailleurs. C'est le reportage de Margot Turgis de France Bleu Gironde.
Ludmila a d'abord dû passer son temps à traduire.
Il faut aller à l'assurance maladie, après il faut aller à la banque, si on va au magasin ou si on va dans le transport, c'est partout.
Et apprendre à gérer les traumatismes.
Les gens, quand ils arrivent ici, ils vont partager ce sentiment pendant la route parce qu'il y a le bombardement, etc. Donc il faut faire un tout petit peu le psychologue aussi avec eux.
Avec aussi bien sûr un quotidien à assurer, raconte Luc, son mari, les courses.
Par semaine, on dépensait à peu près 170 euros. À ce moment-là, on tournait aux alentours de 500.
Et le reste?
Au niveau électricité, ça a augmenté d'à peu près 170 euros. La machine à laver le linge, elle tourne deux fois par semaine, on n'est que deux. Là, elle tournait une fois par jour, voire deux. La douche, même si on ne prend pas beaucoup de temps, c'est 14 personnes qui consomment.
Problème, l'allocation de demandeurs d'asile, 6,80 euros par jour par adulte, a mis trop de temps à arriver.
C'est une somme qui est calculée en fonction du nombre de jours qu'ils sont là, etc. Et c'est à nous de combler cet écart-là.
Alors même s'il dit que les autorités font de leur mieux, Luc Berthaud regrette l'absence d'aide.
En fait, on a fait tout le boulot de l'État en avance. Mais il n'y a rien de prévu, ça, il faut être clair, il n'y a rien de prévu. Aucune aide, c'est surtout ça qui est gênant.
Mais il précise, aucun regret d'avoir hébergé des réfugiés. Ils sont encore trois, une maman et ses deux filles, à vivre chez les Berthaud aujourd'hui.
Margot Turgy, France Bleu Gironde. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, déjà condamnée à 6 ans de prison, a écopé aujourd'hui d'une peine supplémentaire de 5 ans de détention pour corruption. Depuis le coup d'État de février 2021, la prix Nobel de la paix est inculpée d'une multitude d'infractions par la junte au pouvoir dans ce procès fleuve où elle risque des décennies de prison. Et puis, un Malaisien handicapé mental exécuté ce matin à Singapour après une longue bataille juridique et malgré une avalanche de critiques internationales, Nagentran Dharmalingan a été pendu. Il avait été arrêté en 2009 avec une petite quantité d'héroïne sur lui, 43 grammes. Il avait alors 21 ans. Pendant toutes ces années, tous les recours ont été rejetés par les tribunaux de Singapour, dont les lois en matière de stupéfiants sont parmi les plus sévères au monde.
Il est 7h40. La France rend hommage à Michel Bouquet, Laurence, cet après-midi à 16h dans la Cour des Invalides.
L'acteur s'est éteint le 13 avril, il avait 96 ans. Et le président de la République, Emmanuel Macron, ouvrira son deuxième quinquennat avec un hommage à un artiste, comme il l'avait déjà fait pour Jean-Paul Belmondo ou Charles Aznavour. Stéphane Capron.
Ce sera le 13e hommage national rendu par Emmanuel Macron dans la Cour des Invalides. Le jour de la mort de Michel Bouquet, il avait salué un monstre sacré qui brûlait les planches et crevait l'écran. Michel Bouquet a traversé deux siècles et a marqué plusieurs générations de spectateurs. Celui qui a joué plus de 800 fois le roi Summer de UNESCO va quitter une dernière fois la scène cet après-midi. Avant l'éloge funèbre d'Emmanuel Macron, des artistes vont lui rendre hommage. Pierre Arditi, Fabrice Lucchini, qui avait débuté avec lui en 78 dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon, et Muriel Robin, qui a noué une relation particulière avec lui depuis le conservatoire où il avait été son professeur. Leur connivence n'a cessé de grandir au fil des années. Il était son père de théâtre. L'orchestre et le chœur de la garde républicaine interpréteront du Mozart, le compositeur préféré de Michel Bouquet, dont il avait interprété à la télévision le père Léopold en 82 dans un téléfilm de Marcel Bluval.
Et pour être très précis, ce sera le deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Mozart, qui sera donc joué cet après-midi en hommage à Michel Bouquet.
Merci Laurence Thomas. L'édito politique est à suivre sur un...